Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
RMC, Louis Attac, Gilbert Bribois, Luis Fernandez. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC.
Allez, bienvenue pour cette seconde période. On va l'attaquer, puis au plancher, car il va falloir être costaud, solide, car là, il y a des invités, non des moindres. On commence par une légende, un ancien champion du monde, notre défenseur central, le joueur préféré de Monsieur Gilbert Bribois, Monsieur Franck Leboeuf. Salut Francky.
Salut Louisa. Par contre, j'ai anticipé sur notre prochain invité. Non, le truc, c'est qu'il faut quand même dire à Louis que je suis plus invité, quand même. Je travaille depuis 3 ans ici.
Ouais. Louis, c'est pas encore compris. T'inquiète, pas grave.
C'est le renouvellement, ça. C'est le renouvellement. Il faut se renouveler.
Alors, la deuxième heure de Louis Attac.
Qu'est-ce que j'avais pas?
Dans quelques instants.
T'es bien invité.
Ah ouais, j'ai bien invité, je sais pas.
Dans quelques instants, Marcel Desailly avec nous. On aura également Antoine Comboiré tout à l'heure. Il a signé à Guingamp, il nous expliquera pourquoi. Et puis on parlera des fan zones et notamment de la fan zone parisienne qui pose problème au niveau sécurité. L'adjoint au sport de la mairie de Paris, Jean-François Martin, sera avec nous. Et puis le Tiki-Toi. Alors le Tiki-Toi, attention, Louis reste sur, j'ai calculé, 7 victoires d'affilée.
Ça pue, il y a... Pour moi, il y a Anguille Souroche.
Il faut savoir que j'ai une plus grande connaissance, et puis voilà, c'est.
C'est
pas la question de modestie. De temps en temps, il faut nous faire un rappel.
Vous envoyez Louis par lâche. SMS au 732-16, tout de suite pour gagner un jeu de maillot pour votre équipe
passionné.
De foot.
Passionné.
Les gars, Marcel Desailly est avec nous. On va l'accueillir et ensuite on va aller vite voir l'équipe de France parce qu'on a de l'actu également. Est-ce que Marcel Desailly nous entend?
Salut Marcel!
Salut les gars, je suis bien là.
Salut Marcello!
Alors, grande Marcello.
Messieurs, avant que Marcel prenne la parole et qu'on discute avec lui, Jérôme Sillon est auprès de l'équipe de France en Autriche. Il y a actuellement un entraînement à huis clos avec des indications concernant la compo de l'équipe de France pour après-demain soir face à l'Écosse. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous. Effectivement, deux enseignements de l'entraînement qui est en cours. Le premier, c'est Johan Cabaye qui semble avoir les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps pour remplacer Lassana Diarra, forfait et donc blessé. Même si N'Golo Kanté a relayé Johan Cabaye pendant la séance, on a l'impression quand même que Cabaye a disputé un peu plus de temps aux côtés de Matuidi et de Pogba. Donc plutôt Cabaye que Kanté. Et puis pour la défense centrale, on devrait voir reconduit le duo Adil Rami, Laurent Koscielny, puisque les deux ont travaillé ensemble pendant l'intégralité de la séance, toujours avec Patrice Evra et Bakary Sagna.
Voilà, des infos importantes. Merci Jérôme, on va pouvoir en discuter avec Marcel Desailly. Vous avez vu que même, comme à votre époque, nos envoyés spéciaux arrivent à tous avoir des entraînements, c'est magique.
Ah, les espions, j'en ai quelques-uns, ouais.
Bon, tiens, Louis, vu qu'on a reconstitué la charnière de la France-Brésil...
On va lui faire... Est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est... Écoute ça, Marcel.
Côté gauche, sorte à Leboeuf. On a eu, n'aura pas ce ballon. Et on voit Franck Leboeuf très très près de Ronaldo et essayant souvent de passer devant lui.
Ah, c'était juste ça, Louis, ce que tu voulais nous faire écouter.
C'est beau, et Ronaldo,
En fait, le truc, c'est que Ronaldo connaissait très bien Marcel, il avait tellement peur de lui qu'il a dit, je vais aller voir le chauve là-bas, dont j'ai jamais entendu parler, et je vais me coller à lui, que ce sera peut-être plus facile.
Ouais, Marcel?
Vous en dites des bêtises.
On fait comme on peut pour survivre.
Marcel, tu me fais peur là.
Il est sérieux, Marcel.
Il est sérieux là.
Bah c'est bien. Il va être sérieux pendant 3 secondes.
Je suis pas sérieux. Vous rigolez. Je suis bien. Franck, il a démarré avec mon nom et puis surtout. On travaille pas là les gars, on s'amuse là, vous divertissez, c'est
pas
du boulot.
Mais le dis pas, les gens ils croient qu'on bosse quoi, pas déconne pas quoi. Attends, je demande une salaire
Louis,
plus important.
Ce que je te propose, comme on a reconstitué là la défense de France-Brésil, la finale de la Coupe du Monde, que ce soit Franck qui quand même mène l'interview de son collègue de défense centrale.
Que j'ai quelques prix, la primeur de la première question. Bon Marcel.
C'est un métier hein, que de savoir poser les questions.
Oh, bouge pas,
surtout à Marcel Desailly, Franck, vas-y.
Marcel, comme on est à l'approche de l'Euro, je voulais savoir déjà quelles seraient tes occupations pendant ce mois magnifique.
Oh bah on va être occupé, hein. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Hein. Déjà essayer d'être le plus expert possible avec Bein pour essayer de donner cette belle dynamique. Mais j'espère que le contenu de ce qu'on va voir dans les matchs va être beau dans les matchs, etc. Donc Oui, je vais être consultant pour Bein.
Ouais. Et tu penses quoi de notre équipe de France, de ses chances en tout cas avec notre Dédé à la tête?
Moi, je suis curieux de savoir l'animation offensive. On a vu la défense, donner un petit peu de temps à Rami pour qu'il se remette un petit peu en jambe. Il était à la plage avant que Didier le rappelle.
Il sera titulaire puisqu'il va rejouer après-demain.
Ouais, il a pas voulu prendre de risques lors du premier match, essayer d'être propre, essayer de relancer comme il fallait, etc. Donc, on peut pas le juger sur ce premier match. Mais moi, je m'en fiche. Kaba, il va reprendre la place de la Sanadira qui est parti. On est désolé parce que c'est un grand joueur. On a une partie de notre colonne vertébrale centrale entre Varane et la Sanadira qui a filé à l'ancienne. Mais nous, on veut savoir l'animation offensive, les gars. On veut savoir Griezmann. On veut savoir avec qui va être associé. Comment ça va bouger? Qui va être détendu de cette animation? C'est ça que je veux savoir.
Ça, tu vas le savoir. C'est facile à savoir. C'est Giroud, Griezmann, Payet. Et voilà, je pense que ça va partir avec ces trois-là. On va commencer avec ces trois-là.
T'es sûr, toi?
Payet, à l'heure actuelle, c'est un garçon que tu ne peux pas sortir de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est capable de distiller, de donner. C'est un joueur qui est un leader technique. Leader technique, c'était comme un Platini ou comme un Zidane dans une époque. T'as besoin de leader technique. C'était peut-être pas le même talent, mais c'est un garçon qui est capable de faire cela. Et puis après, tu as Giroud et tu as Griezmann. Peut-être que, si tu veux, allez, va. Je t'enlève Giroud, on met Martial, si tu veux. Ou on met Gignac. Mais je vois Payet et Griezmann jouer. Pogba, je le vois jouer. Matuidi, je le vois jouer. Voilà, je sais pas. L'animation, elle est là.
Marcel Desailly.
Sans te couper, est-ce qu'on reste sur un 4-3-3 ou est-ce qu'on va sur un 4-4-2 pour parler un
4-4-2 avec Didier, c'est difficile. Moi, je prône pour un 4-2 avec deux récupérateurs de Matuidi et Kanté. Et je mets Pogba un peu plus haut dans la pointe avec Payet, Griezmann et Giroud.
Alors,
ça, c'est mon animation. Ça te plaît?
Ça me plaît beaucoup.
Merci, Maître Capello. Merci.
Franck, tu peux reprendre la main.
Maître Marcello. Moi, j'ai une question.
Il est entraîné par Capello,
j'ai une question un petit peu sensible, mon cher Marcel, mais comme je sais que tu es proche de Didier, je pense que tu pourras répondre. Est-ce que je voulais savoir un petit peu ton sentiment sur les déclarations, tout d'abord d'Eric Cantona, puisque c'est lui qui a un petit peu,
allumé la mèche
sur l'idée que ton ami Didier Deschamps serait peut-être raciste.
Canto, il est sorti de sa boîte, ça faisait longtemps, ça faisait 8 mois qu'il avait absolument rien dit, ou plus. Je crois que Didier est serein avant tout, c'est ça qui est bien. Didier est serein, il n'y a pas vraiment à s'en faire. L'évidence est là, messieurs. Je crois que la fédération et l'entraîneur de l'équipe de France ont pris la décision de ne pas prendre Benzema, c'est terminé. Ça s'arrête là. Et Valbuena, si SMI partie civile à l'époque, c'était pour voir un petit peu. Vous avez vu, je suis dedans.
T'es bien dedans.
c'est qu'il voulait vraiment connaître le contenu de ce qu'il y avait dans cette histoire qui a fait beaucoup de bruit. Et Franck, je te prends à témoin sous ton contrôle. Je crois que un joueur qui peut à tout moment créer un problème dans le collectif indirectement, c'est pas forcément lié à lui, ça peut être une mauvaise performance. On va tout de suite reparler de l'affaire Benzema, etc. Donc ils ont préféré ne pas prendre le risque de le prendre. Ça s'arrête là et ça n'enlève rien à Karim qui a gagné la Champions League et qui en gagnera d'autres et sera présent après peut-être en équipe de France.
Marcel, des deux, de Cantona et de Benzema, c'est lequel des deux qui t'a le plus déçu?
Par rapport à leur déclaration.
Mais là, pour Benzema, j'ai le sentiment, alors je sais pas si c'est vraiment venu de lui ces phrases-là. Je crois que j'avais l'impression que le journal espagnol avait pris un petit peu les devants et avait anticipé sur l'idée que Benzema pouvait avoir dit ça. Depuis, il a confirmé Karim ou pas?
Ah non, mais c'est une vraie interview réalisée à l'aéroport de Lyon.
J'ai écouté le journaliste hier soir en Espagne. Je peux te dire que le journaliste s'est déplacé d'Espagne pour aller à Lyon le voir personnellement à sa demande de qu'il vienne là-bas. Et ensuite, il lui a fait relire l'article. Il a confirmé tout ce qu'il a dit au travers de l'article.
Mais non, Marcel, excuse-moi, l'histoire, c'est on lui demande s'il pense que Didier Deschamps est raciste. Il dit que je pense pas. C'est bien écrit, mais qu'il pense qu'il aurait été influencé par une partie raciste de la France. Voilà.
Pas du tout.
Alors, est-ce que c'est pas même plus insultant?
Il faut qu'il développe après derrière, qu'il explique plus précisément. Il faut qu'il rentre un petit peu dans l'historique, parce que ressortir ça comme ça, ça fait du tort à tout le monde. Je crois que on est dans une période assez délicate. En plus, ils ont rajouté Ben Arfa à l'intérieur en expliquant que lui aussi, il faisait partie de cette dynamique-là, alors que on a techniquement des réponses au pourquoi Ben Arfa il est pas présent dans cette équipe de 23. Donc il a déjà été récompensé en étant dans les 7. Voilà, ça faut s'arrêter là. Il était où il y a 3 ans, Ben Arfa? Dans quelles conditions?
On m'a mis un an.
Il n'était pas au top. Il est revenu. Il était en belle santé. C'est évident que moi, quand je regarde les résumés des matchs lorsque Ben Arfa il marque ses buts, je crie au génie. Et c'est un génie. C'est fantastique. Mais est-ce que ça suffit réellement pour venir en équipe de France tout de suite? Parce que après, quand on regarde le contenu des 90 minutes, il y a quelquefois, dans son replacement défensif, dans son attitude générale, des choses qui font que Didier pouvait seulement le récompenser en étant dans la réserve et en n'étant pas dans les 23.
Marcel Desailly avec nous les gars dans Louis Attaque. Pas mal de réactions aujourd'hui, hein, une nouvelle fois après les déclarations des uns des autres. Lilian Thuram, votre ancien coéquipier, a dit Benzema dit qu'il aime l'équipe de France, mais en fait il ne l'aime pas. Ses déclarations, il l'aime mal. Ses déclarations peuvent déstabiliser le groupe, dit Lilian Thuram. Et puis Jamel Debbouze s'est déclaré désolé de ses propos. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de proportions. Je suis un citoyen avant d'être un comique. J'ai livré un sentiment. J'aurais jamais cru que ça prenne autant de place. J'en suis désolé. Maintenant, on doit être tous derrière l'équipe de France. On a un euro à gagner, dit Jamel Debbouze. Voilà.
Marcel, est-ce qu'il y a un malaise entre Didier Deschamps et Eric Cantona? Est-ce qu'il y a un antécédent? Vous avez joué ensemble, non?
Oui, pareil avec David. Oui, je crois qu'il pense toujours que
David
en 96, c'est Didier qui a influencé Aimé Jacquet de pas les prendre alors que Eric rayonnait en Angleterre, de pas le prendre pour le championnat d'Europe. Il était dans la même situation à l'époque. Regardez, c'est exactement la même cas de figure.
Mais ça a été le cas, Didier Deschamps a effectivement influencé.
Non, mais l'idée, non, mais je parle de Jacquet, même s'il est venu me voir, Aimé. Si Aimé me dit à moi, et c'est pas du tout le cas pour Didier, mais.
Tu vas jouer arrière droit.
J'imagine que Aimé dit, j'ai Zinedine Zidane. Par contre, je suis embêté. J'y crois beaucoup, mais je suis embêté parce que je sais que l'association, elle peut pas se faire avec Eric. Je dois choisir. Lequel des deux je choisis? Eh ben, on va sur Zidane. À un moment donné, il y a un choix à faire. Il est allé sur Zidane et ça a marché, ça a fonctionné.
Mais ce qui est sous-entendu, Marcel, excuse-moi, c'est que Didier aurait pris part à cette décision. Voilà. Est-ce que tu la confirmes ou pas? Que Didier aurait dit.
Mais pas du tout. J'imagine qu'il y a eu un peu le même cas de figure à l'époque, que le sélectionneur a dû faire des choix bien précis, qu'il ait interrogé les uns et les autres ou pas. Il a fait des choix. Et là, en l'occurrence, c'est Cantona et David qui en ont souffert de ces décisions. Donc c'était un petit peu le même cas de figure. Donc à partir de là, je crois qu'il faut se dire que tout sélectionneur, tout entraîneur aujourd'hui veut toujours mettre la meilleure équipe. Vous rigolez ou quoi? Il y a seulement dans les petites catégories où socialement peut-être que les 0 à 8 ans ou quelque part l'entraîneur peut être influencé par le niveau social de certains parents pour mettre plus ou moins les enfants, il fait des choix. Mais après, dès que la compète commence, je peux vous dire qu'un entraîneur choisit uniquement ceux qui vont lui faire gagner.
Vous lui en voulez, Eric Cantona?
Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de visage, il n'y a rien du tout.
Marseille, vous lui en voulez, Eric Cantona, pour ses déclarations là ou pas?
Écoutez, c'est pas mon combat. Je suis seulement désolé qu'on aille aussi loin que ça, alors que l'évidence est là, que le débat continue de proliférer comme ça uniquement parce que il y a un buzz à faire. Il y a rien. J'ai même pas répondu sur la question si Didier était en délicatesse ou pas, parce qu'il y a pas à répondre. Parce que c'est évident qu'il n'est pas du tout en délicatesse par rapport à ça, parce qu'il a sa conscience.
Alors,
pour lui.
Il y a un autre aspect dans les choix de Didier Deschamps qui tranche sur les blessés. On a eu dans le passé récent de l'équipe de France des joueurs qui souvent ont été appelés et qui n'ont pas joué. Et d'ailleurs Marcel en est l'exemple, puisque Marcel en 2004 est appelé par Jacques Santini pour faire l'Euro et se retrouve dans une situation bancale où on voit Marcel Desailly venir aux conférences de presse.
Il a joué, Marcel en 2004, non?
Ah bah attends, je veux au bout de mon propos, c'est-à-dire que Didier Deschamps, dès qu'il y a un joueur plus ou moins en délicatesse, hop, il l'enlève. Il y a eu Vieira en 2008, il y a eu Zidane en 2002, Marcel en 2004, il était dans le groupe, il jouait pas, il venait tout de même s'exprimer devant les médias, ça devait être une situation un peu compliquée pour vous, Marcel, à l'époque.
Pas du tout. C'était en accord avec mon sélectionneur. Et c'est ça. Le truc, c'est qu'en interne, il se passe des choses, il y a des discussions. Il m'avait expliqué que je restais le capitaine de cette équipe, que j'avais été blessé un petit peu avant la compétition, donc j'étais pas à 100% de mes moyens. Rappelez-vous, j'avais 34 ans à l'époque, donc blessé avant la compète me permettait pas de faire tout le travail physique. Donc, vu que Zidane aimait pas trop aller aux presse conférences, etc., bah, il m'a dit, bon, bah, écoute, malgré tout, on te garde. On peut pas te balayer comme ça du jour au lendemain. Quand tu reviens en forme, et ben là, d'un seul coup, on te réintègre et t'as un historique, t'as un passé, t'as une petite compétence devant les médias, plus qu'un autre. Donc, on va continuer de te mettre.
Marcel, merci d'être venu dans Louis Attaque. Ça te fait du bien de retrouver ton ancien coéquipier, ton ancien défenseur.
On était complémentaires.
On a joué plus de matchs avec Chelsea qu'en équipe de France ensemble.
Trois ans, je crois.
De 98 à 2001. On a joué ensemble, on a gagné la Cup, on a gagné la Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on a gagné, Marcel? La Charity Shield.
Tu demandes qu'est-ce qu'il a gagné, Marcel? Il a gagné de partout. Il a gagné avec le Milan.
Mais il a plus gagné avec moi qu'avec John Terry,
Avec John Terry. John Terry était jeune. Terry, il arrivait.
Oui, il m'a viré, mais il a.
Tu commences à prendre les jeunes,
Marcel.
Marcel, c'était le.
On a eu le rire de Marcel Desailly. On l'a eu. Très célèbre Twitter rire.
Ciao, Marcel.
Je t'embrasse, mon Marcel.
Éteignez-moi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas lieu d'être, messieurs.
Éteignez-moi la lumière de Sailly.
T'inquiète pas, tu l'as apaisé là.
Ciao, Marcel. À bientôt.
Ciao.
Marcel Desailly était avec nous dans Louis Attaque.
Je l'ai trouvé très très bien sur l'explication. Je pense qu'il a eu une explication concrète, sereine, sur ce qui se passe. Et les propos de Jamel aujourd'hui sur son excuse montrent bien qu'on a besoin d'une unité et qu'on n'a pas besoin de faire des déclarations qui ne font pas avancer le schmilblick. Je trouve que Marcel a été très apaisant sur l'histoire.
C'est mettre un stop, un holà. Il faut arrêter. Parce que ça ne sert à rien de remettre tous les jours, d'en reparler, parce que c'est de remonter les uns contre les autres. Et ça ne sert à rien. Le football, on n'est pas dans cette pratique. Dans le football, on est dans tout ce qu'on a toujours été. Nous, en se retrouvant sur des terrains, le week-end ou tous les soirs, entre toute la diversité, toutes ces communautés, à jouer, à prendre du plaisir, et voilà. Ça nous a pas empêché de nous mettre des droites et des gauches de temps en temps.
S'il faut remettre des dossiers à chaque fois, tu peux dire que Platini voulait pas prendre Luis Fernandez, mais que Luis Fernandez était chouchou de Michel Hidalgo, et donc c'est pour ça qu'il y était.
Michel Platini, il était italien. Les Italiens, ils supportaient pas les Espagnols. Ça y est, il était raciste contre moi. Je me rappelle de
messieurs, dans quelques instants, nous sommes de retour avec un autre invité, Antoine Comboiré. Il a signé.
Colonne.
Il a signé à Guingamp.
Surnom, Colonne.
Il a signé à Guingamp et il va nous expliquer pourquoi ce choix. Et puis le mercato, Ben Arfa au Paris Saint-Germain. Messieurs, c'est possible. Il a rencontré les dirigeants du PSG. Est-ce une bonne idée pour Atem Ben Arfa? Est-ce une bonne idée pour le PSG? Débat à suivre dans Louis Attaque.
Et pour que Franck.
L'UEFA Euro 2016.
Pour que Franck puisse me battre dans le tiki-tour, on va laisser un peu qu'il aille se reposer un peu, qu'il aille penser, réfléchir. Qu'il revienne costaud, solide, pour vraiment.
Je
te donne 10 minutes de repos.
RMC, Louis Attaque, Gilbert Bribois, Louis Fernandez. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC.
Allez Gilbert, on continue, on enchaîne, car il nous attend, notre invité.
Il est avec nous, Antoine Comboiré, nouvel entraîneur de Guingamp et dans Louis Attaque.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir Louis, bonsoir Gilbert.
Alors dis-nous un peu, tu es un homme heureux, content d'avoir signé à Guingamp?
Bah, tu l'as dit, à partir du moment où moi je suis donc un homme heureux, donc forcément que l'entraîneur que je suis va tout mettre en œuvre pour que ce choix, pour que ce défi donc qui m'est proposé, donc ce soit un succès, même si je sais que la tâche est difficile. Derrière le départ de Jocelyn Gouvernet, qui a fait du très bon travail depuis 6 ans qu'il est là, quoi.
Dis-moi, c'était une décision quand même assez difficile de quitter le RC Lens quand même. Ce Lens avec cette ferveur.
Oui, c'est difficile, surtout sur le plan humain, parce que je te cache pas que les relations que j'avais avec Jérémy Martel, un homme que tu connais aussi bien que moi, voire mieux que moi, c'est un homme sensible, un homme attachant. Il a fait, comme tout le monde, donc des conneries, et c'est vrai que c'est un club qui est en difficulté. Mais moi, j'aime l'engagement qu'il donne dans son club. Là, il a tout fait pour le sauver. Nous, on a eu des moments très difficiles, mais on s'est jamais plaint. On a travaillé main dans la main. On a fait du bon travail malgré le peu de moyens qu'on avait. Et c'est vrai que moi, je pars triste par rapport donc à ce club qui est en difficulté. J'aurais voulu donc le remonter, le ramener en Ligue 1, mais c'est pas le cas. Et puis maintenant, par contre, j'ai tourné la page. Et puis, comme je le dis souvent, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ce qui est surtout très important, c'est mon aventure avec avec Guingamp. Voilà, avec un président, donc Bertrand Desplat, qui est venu donc me chercher, motivé comme tout, et son discours encore une fois m'a touché. Donc je le sens que, alors on ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais déjà au départ, voilà, ils sont très motivés donc à l'idée de m'avoir, et c'est, son discours m'a touché forcément énormément. Et
Antoine,
je suis content aujourd'hui de reprendre.
Antoine, t'as entraîné le Paris Saint-Germain, ce qui n'était pas rien avec l'arrivée du projet des Qataris. Ensuite, t'es parti du côté de Lens. Aujourd'hui, tu reviens en première division du côté de Guingamp. Est-ce que t'as pas eu d'autres propositions de clubs beaucoup plus ambitieux? Parce que bon, même si Guingamp a de l'ambition, hein, est-ce que t'en as pas eu d'autres? Bordeaux.
Non, mais pour ceux qui me connaissent, moi, je vais dire avec mes mots, moi, je m'en fous Ligue 1, Ligue 2. Hein. Ce sont d'abord des choix humains. Voilà, quand j'ai été à Lens, j'avais trois clubs de Ligue 1 que je ne citerai pas, donc qui m'ont fait des propositions, et j'ai choisi Lens au-delà du contrat, mais surtout parce que voilà, le club de Lens, ça parle cette année, donc en Ligue 2 avec un championnat très compliqué en ce qui nous concerne, on a fait pratiquement 30 000 de moyenne, donc tu vois. Donc voilà, et donc forcément que j'ai choisi Lens. Et aujourd'hui, donc, j'aurais pu rester à Lens parce que, donc, je te dis, Gervais Martel m'avait fait une proposition de contrat. Et les nouveaux dirigeants, donc, ont tergiversé. Ils ont attendu, ils étaient patients, ils ont peut-être fait jouer la montre. Et moi, à un moment donné, quand les clubs de Ligue 1 sont arrivés, il y a eu deux clubs avant, donc, avant Guingamp, voilà, ça s'est pas fait pour des raisons. Bon, maintenant, c'est de l'histoire ancienne, encore une fois, mais pour X raisons. Mais par contre, quand Guingamp est arrivé et quand j'ai vu un président, donc Bertrand Desplat, aussi motivé, lui, par son discours, mais aussi donc certainement donc le discours donc de tout un club, voilà, le poids de tout un club, une région. Moi, j'ai senti donc que c'est là qu'il fallait que j'aille. Et c'est un choix humain. Et quand les gens disent, moi, je suis pas là pour me relancer, parce que moi, j'ai toujours continuer ma carrière, et encore une fois, peu importe le prestige du club, ce qui est important, c'est voilà les choix humains, l'engagement humain, donc les gens avec qui j'ai le sentiment d'avoir fait, voilà, d'avoir le bon feeling, voilà, et je pense que après il y a que l'avenir qui nous dira comment ça se passera, mais aujourd'hui, je suis d'abord un homme heureux, et forcément que moi, j'ai envie donc de faire du très bon travail, continuer donc dans la foulée donc de le chemin qu'a tracé donc Jocelyn Gouvernec, donc forcément que voilà, je suis heureux, et puis j'ai envie donc de faire grandir ce club, faire passer à ce club un palier, même si je sais que ça va être difficile, parce que quand on est à Guingamp, on pense avant tout à jouer le maintien, et après donc plus, comme on dit, si affinité quoi.
Antoine Comboiré est avec nous dans Louis Attaque. Alors justement, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs d'ores et déjà sportifs avec le président?
Oui, mais je me répète, mais quand on est à Guingamp, on sait donc, je veux dire, où on met les pieds, on sait où on va, donc on est.
Donc c'est le maintien.
Pour connaître cette région, voilà. Puis moi, je suis passé à côté, là, à Nantes, là, la Bretagne, je connais un peu, c'est une région que j'aime et j'apprécie énormément. Donc à Guingamp, on joue d'abord le maintien, et forcément que c'est le premier discours qu'on tient, et on fait tout d'abord pour avoir les points du maintien, et après, il n'y a pas de limite. Là. Après, on n'a pas de limite.
Vous n'auriez pas eu envie, Antoine, d'entraîner à l'étranger?
Mais ça fait 3 ans depuis que je suis parti du PSG. Voilà, j'avais donc cette envie. Et puis, ça ne s'est pas présenté. Et puis,
je parle dans un grand champion européen, pas de retourner dans le golf, puisque vous y avez été à un moment.
Non. Oui, voilà. Bien sûr que quand je suis allé à Lens, j'ai refusé d'ailleurs les clubs de Ligue 1, parce que j'ai attendu pour aller donc voilà en Première Ligue. Pourquoi pas en Allemagne, c'était donc mon choix, c'était mon souhait. Et puis après, c'est pas arrivé, donc c'est pas grave. Et puis surtout, il n'y a pas de choix par défaut, surtout pas quand je suis allé à Lens, parce que j'avais envie, donc voilà, le club est en Ligue 2, de le faire remonter en Ligue 1. Et on a réussi, puis après on est retombé donc en Ligue 2. Mais voilà, aujourd'hui, je suis à Lens, faut pas se méprendre, au contraire, je suis en tout cas
un entraîneur
très content et très motivé, très motivé à l'idée de faire du bon travail là-bas, quoi.
Antoine, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu en penses de ces affaires qui polluent aujourd'hui le football, par rapport au racisme, par rapport à tout ce qui se dit des uns et des autres, en tant que garçon que tu es aussi un canac, hein, pour ça, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, mais moi, c'est vrai que moi, j'aime pas faire de la langue de bois, et les gens me connaissent pour ça. C'est pour ça que je m'exprime peu, parce que moi, je dis souvent les footballeurs, mais ça, c'est le discours que je dis à mes joueurs. Les meilleurs discours qu'ils font, les meilleures interviews qu'ils font, c'est avec leurs pieds. Ils sont bons que quand ils parlent avec leurs pieds, quand ils sont sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport au championnat d'Europe, par rapport donc à notre équipe de France, qui donc joue à domicile, et cette équipe a besoin du soutien de tout le monde. Ben, aujourd'hui, il faut donc mettre son ego, mettre ses soucis perso de côté, et donc faire preuve de solidarité. Et puis après, une fois que le championnat d'Europe est fini, si on a des choses à dire, on s'exprime. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est déplacé. C'est déplacé, ouais, de parler, et puis surtout donc de tenir des propos qui peuvent apporter donc préjudice, mais surtout donc des sujets polémiques. C'est parce que c'est pas le moment. Voilà, ça c'est mon avis.
Oui, Gilbert.
Malgré tout, vous restez aujourd'hui, et ça c'est aussi révélateur d'une situation aujourd'hui dans le foot européen, c'est pas qu'en France, vous restez le seul entraîneur noir dans le monde professionnel.
Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui.
C'est vrai.
Ça date pas d'aujourd'hui. Donc voilà, une fois qu'on a mis le doigt dessus, une fois qu'on a donc mis en avant le fait que je sois le seul entraîneur noir, les questions qu'il faut poser, c'est aux dirigeants. Voilà, là où je vois donc aujourd'hui Bertrand Desplat, donc toute une région, donc voilà la Bretagne, voilà me veulent comme entraîneur, donc c'est un signe fort. Donc c'est les bien dirigeants sûr qui doivent donc faire évoluer donc leur façon de penser, leur façon de travailler. Mais après voilà, c'est comme ça. Moi je suis aujourd'hui donc entraîneur de l'Anavin Guingamp, et je suis un homme heureux. Et bien sûr que je suis touché à l'idée qu'il n'y a pas plus donc de Noirs, il n'y a pas plus de Maghrébins, donc voilà, donc dans le championnat français. Mais après,
est-ce que juste pour conclure, est-ce que dans votre progression de carrière comme joueur, comme entraîneur, est-ce que il est arrivé une fois que vous vous dites tiens, là on me prend pas à cause de ma couleur de peau?
Mais non. Mais après, ça c'est vous qui aujourd'hui donc souhaitez donc mettre en avant donc ces sujets-là. Vous savez, moi quand je l'ai fait depuis toujours. Hein, je m'occupe pas, donc quand je suis donc dans le travail, je regarde pas si en face de moi j'ai un joueur qui est noir, blanc, jaune, rouge. Moi, je regarde avant tout les compétences, sa qualité, et puis surtout donc ce qu'il a dans le cœur. Quoi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Hein.
Est-ce que tu penses que comme Eric Cantona est un peu trop loin sur Didier Deschamps? Toi qui connais Didier.
Mais moi, j'ai pas suivi. Voilà, pour être honnête avec vous, là, je veux vous donner donc ce que je fais là aujourd'hui, et c'est pour le mois de juin. J'ai qu'une envie, là, pendant le championnat d'Europe, c'est de me casser d'ici, donc de ne pas donc assister au championnat d'Europe. Moi, je suis en vacances, je coupe et je refais donc le plein d'énergie pour que à la rentrée, je sois fin prêt pour attaquer la saison avec Guingamp. Donc forcément que je ne lis pas, ça m'intéresse pas. Pour moi, donc ce sont des sujets qui polluent donc aujourd'hui l'équipe de France. L'équipe de France n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous, on est tous là à soutenir notre équipe de France, et surtout donc moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les joueurs donc s'entraînent bien, et s'ils se préparent bien, et est-ce qu'ils seront prêts pour le championnat. Et puis par contre, je serai devant mon poste à supporter mon équipe de France. Le reste pour moi, c'est de la littérature.
Et alors, requinque-toi bien, repose-toi bien pour nous revenir en pleine forme, petit Antoine, en première division, hein.
Voilà, okay. Merci Louis,
merci. Allez, Antoine, à bientôt, ciao, bonne chance,
ciao.
Antoine Comboiré qui était donc dans Louis s'attaque. Et on va changer de sujet, Louis et Franck, pour évoquer...
Il est content, Antoine, d'aller là-bas, il est gagnant.
Oui, effectivement.
Il a trouvé un président qui a su le convaincre.
Non, puis Antoine, c'est vraiment un bon mec.
Ouais.
Moi, je suis pas intervenu dans cette discussion.
Toi, tu t'es préparé pour le Tequito,
j'étais en train de me concentrer pour le Tequito.
J'ai vu que t'es cherché des feuilles, t'es chargé partout pour savoir...
Les gars, s'il vous plaît, le temps passe vite, changement complet de sujet. On va revenir à l'actu de l'Euro. Vous savez que tous les soirs, on se concentre sur une ville qui organise l'Euro. On était à Lens hier. On va parler de l'organisation de l'Euro à Paris, et notamment de l'organisation de la fan zone parisienne, puisqu'aujourd'hui le préfet de police a proposé la fermeture de la fan zone à Paris pour certains matchs. Et on a avec nous dans Louis s'attaque l'adjoint au sport de la ville de Paris, Jean-François Martins. Bonsoir.
Bonsoir monsieur Martins. Elle est partie. Il veut pas parler.
Allô Jean-François.
Dès que j'ai dit Jean-François.
Bon, ben il y a eu une coupure. Juste au moment où on voulait le prendre, la ligne a coupé. On va le retrouver dans quelques instants.
Le préfet,
je vous donne
a
les
décidé.
Infos. En fait, le préfet de Paris, Michel Cadot, propose à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, de demander une fermeture les jours de match au Parc des Princes et au Stade de France. Donc ces jours-là, la fan zone serait fermée. Pourquoi? Parce que le préfet évoque l'état d'épuisement avancé des forces de l'ordre, plus des menaces, notamment terroristes, qui pèsent sur l'événement. Voilà, c'est une info qui date de cet après-midi. Vous savez que ce sujet des fan zones est
il est là, Jean-François.
Et voilà, est très
Sensible
depuis plusieurs semaines. On a retrouvé Jean-François Martins qui est l'adjoint au sport de la mairie de Paris. Bonsoir.
Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Loïc, bonsoir Louise, bonsoir Franck.
Salut Jean-François.
Alors, que pensez-vous de cette demande du préfet de police de Paris qui demande la fermeture de la fan zone de Paris pour les jours de match au Parc et au Stade de France ?
Mais lui, le préfet, il est dans son rôle. Il a le rôle de maintien de l'ordre à Paris. Et donc, sur toutes les grandes manifestations, il fait tous les scénarios possibles. Le scénario très ouvert, où on ouvrirait tout sans contrôle, jusqu'à des scénarios extrêmement durs avec on n'ouvre pas les jours de match, on n'ouvre qu'à partir de 18h. Il est dans son rôle d'essayer, évidemment, d'avoir le dispositif avec le moins d'incertitudes possible. Mais aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, avec les données qu'il a, n'a pas tranché en faveur de la solution du préfet de police, qui était maximaliste et qui allait à la fois complètement alléger la fête et la convivialité de l'événement, et qui en plus, en termes de sécurité, garantissait pas beaucoup plus de choses, parce que...
Vous êtes pour l'ouverture de la fan zone, même les jours de match au Parc et au Stade de France.
Ah bah raison, bien sûr, vous savez qu'il y a des supporters de différentes nations qui accompagnent leur équipe même sans billets et qui ont besoin de lieux de retransmission. Ce qui serait terrible, c'est de laisser 2000 supporters allemands dans Paris sans lieu sécurisé pour regarder les matchs, sans lieu sécurisé pour faire la fête et de les rendre extrêmement vulnérables.
C'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui prendra la décision finale ?
Qui l'a déjà prise et qui l'a prise en faveur d'une ouverture très large de fan zones sur les 51 matchs de l'Euro.
Donc c'est une information que vous nous apportez, les fan zones seront bien ouvertes, enfin la fan zone à Paris sera bien ouverte les jours de match du Stade de France et du Parc des Princes.
Les 51 matchs de la compétition plus les 3 concerts.
Surtout, Jean-François, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que les fan zones ont été plébiscitées parce que ça permettrait de régler un problème de sécurité, de voir les gens se promener, comme l'a dit Jean-François, des Allemands dans la rue, tout ça. C'est peut-être plus facile d'avoir un problème que de les confiner dans un endroit tous ensemble pour pouvoir les surveiller et pouvoir surtout les protéger. Il me semble que c'était logique.
Franck a raison, c'est ça l'argument de fond. C'est que la fan zone, ça serait un endroit autant sécurisé qu'un stade. Contrôle d'accès, palpation, etc. Et pour nous, pour tous les supporters étrangers qui vont venir sans billets ou qui seront pour un autre match et qui veulent regarder le match d'après, on préfère leur offrir un lieu extrêmement sécurisé où ils vont pouvoir à la fois faire la fête, être tranquille, mais dans des conditions de sérénité absolue. L'effet positif qu'a eu peut-être le courrier du préfet, c'est évidemment de permettre à la fan zone de Paris d'avoir des forces de l'ordre supplémentaires pour être sûr qu'on soit capable de gérer la présence policière importante. Hein. Ce sera plus de 1000 policiers autour de la fan zone.
Justement, pour conclure Jean-François Martin, quel message adressé à tous ceux qui veulent aller dans les fan zones faire la fête ? Parce que quand on entend le préfet parler d'état d'épuisement avancé des forces de l'ordre et de menaces terroristes, on est en droit d'être inquiet quand même.
Mais bien sûr, c'est l'état de la menace dans lequel doit vivre toute l'Europe en ce moment. Sauf que on est aujourd'hui sur une menace qu'on a identifiée depuis plus de 2 ans en fait. Et donc on a anticiper l'ensemble des dispositifs de sécurité. On a un nombre de forces de l'ordre et d'agents de sécurité privés. On sera à plus de 1500 personnels de sécurité par match, de la vidéoprotection. Et je pense que la fan zone sera presque l'endroit le plus sécurisé en dehors de votre canapé pour regarder les matchs et avoir l'ambiance et avoir la convivialité et avoir le festif. Donc il faut surtout pas d'abord symboliquement céder au terrorisme et de dire bah, finalement c'est bon, ils ont gagné, on arrête de vivre, on arrête de faire la fête. Et puis surtout, il ne faut pas se laisser terroriser par ceux qui ont un intérêt à faire sur la matière une surenchère anxiogène et de dire non, nous supporters de foot, on a envie de regarder les matchs ensemble, on va aller dans le seul grand lieu sécurisé pour regarder les matchs qui sera la fan zone au pied de la Tour Eiffel.
Merci Jean-François Martins, merci beaucoup.
Bonsoir Jean-François.
À bientôt.
À très bientôt. Donc voilà les précisions. Fan zone ouverte, nous confirme Jean-François Martins, c'est le genre de match à Paris.
Par rapport à ce que te dit Jean-François, une fan zone, ça me paraît bon être peut-être le lieu où on peut éventuellement se dire qu'on peut être tranquille parce qu'il y aura, eu avant tout une certaine sécurité d'anticiper laissant par rapport aux les gens qui vont être filtrés.
Mais non, mais t'as des portiques de sécurité, t'as des palpations, il y a des épaisseurs sur les côtés, parce que moi je me suis renseigné pour pouvoir empêcher des gens de rentrer comme des fous, et il y aura toutes les 1000 policiers, comme l'a dit Jean-François.
Ce qui sera important de dire, c'est que quand tu arrives à Paris, de prévenir et de dire, voilà, les endroits, le lieu où l'on peut être
tranquille pour aller voir un match.
Bah, c'est au Champ de Mars, je crois. Non, hein, ouais.
C'est toi, c'est que les gens se dispersent pas, parce que tu sais comment c'est. Tu t'arrêtes dans les terrasses, tu vois des écrans, et voilà, c'est ça qui ça peut amener beaucoup plus de monde ailleurs que sur une fan zone.
Voilà, et le premier match au Stade de France, bah, c'est dès le vendredi de la semaine prochaine, le match France-Roumanie, donc au Stade de France, match d'ouverture. Allez, dans quelques instants, le Tiki Toi et Ben Arfa dans Louis s'attaque. On revient tout de suite. Ben Arfa au PSG, bonne ou mauvaise idée, vous pourrez donner votre avis, Louis Franck, bien sûr, et on l'attend avec impatience.
RMC, Louis s'attaque, Gilbert Bribois, Louis Fernandez. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC.
Bon, alors, tu voulais commencer par nous parler de Hatem Ben Arfa. T'es oui. T'as des infos?
Oui, info RMC Sport, rencontre entre Ben Arfa et le club.
Ce sont les tiennes, ça n'engage que toi.
C'est des infos d'RMC Sport qui sont recoupées, travail journalistique carré, précis.
Il y a du boulot.
Voilà, avec différentes sources.
Vous l'avez vu sortir.
Arrête d'essayer de remettre en cause ces informations.
Non, mais vous l'avez vu sortir, la rencontre, c'était où? Dans un restaurant, c'était où? Dans les bureaux de. C'était où? Dites-moi, j'ai envie de savoir.
Eh ben, écoute, on peut pas non plus, comme on dit dans le milieu. On ne dévoile pas ses sources.
Alors, on ne dévoile pas du tout.
Mais donc, Ben Arfa au PSG, maintenant qu'ils se sont rencontrés, bonne ou mauvaise idée, les gars?
Ça peut être une bonne idée. Ça peut être quelqu'un qui peut apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. Il en a les qualités, le talent. Maintenant, c'est de savoir si s'il n'y a rien eu entre lui et Laurent Blanc au cours du dernier championnat d'Europe, où il paraît qu'il y a eu un petit accrochage, un petit
ouais,
problème.
Enfin, bon. ça peut se régler.
Non, ça...
Bon, d'accord.
Ça reste toujours au présent.
Oui, non, mais d'accord, mais bon, après.
C'est vrai qu'il est rancunier, Laurent.
Après, je pense que Hatem a toutes les qualités pour jouer au Paris Saint-Germain. Oui. Je me rappelle de ce match en fin de saison, Paris Saint-Germain-Nice.
C'était bon.
Il a été plutôt bon. Oui. Moi, je pense qu'il a les qualités pour jouer dans n'importe quel club. Maintenant, est-ce il va pouvoir rentrer dans ce système-là?
Di Maria, Cavani, Ben Arfa?
Non, mais, Ben Arfa ne sera pas forcément titulaire. Tu vois, et
c'est
donc
à Paris, c'est pour jouer quand même, Franck.
Ouais, bah, ça va être joué.
Si tu vas au Barça pour être remplaçant, je veux bien, mais si pour être remplaçant au PSG, c'est quand même c'est différent. Au PSG,
il peut commencer comme
à suivre. On y reviendra peut-être dans l'Arkéfoot plus longuement demain, dans l'after tout à l'heure. L'Arkéfoot aussi, tout à l'heure, jusqu'à 20h.
On passe au témoin. Vas-y, Jean-Mi.
C'est une info importante. Et nous, on n'a pas le temps d'aller plus loin parce qu'on a un rendez-vous incontournable.
La roue de la fortune, non, c'est pas ça.
Tiki-toi.
RMC, Louis s'attaque.
Il regarde avec des grands yeux comme ça. Franck, c'est bon, tiki-toi.
Si Louis gagne ce soir, ce serait une première. Il resterait invaincu pendant deux semaines de Louis s'attaque.
J'ai peur qu'il y a... Je sais pas ce que vous m'avez trafiqué.
Un truc sur Strasbourg. Ouais.
Richard est avec nous. Salut Richard.
Ouais, salut les gars.
Salut Richard. Tu choisis Louis ou Franck?
Ah ben je vais tenter Franck, je sens que la roue va tourner, Louis n'est pas en confiance.
Ah il y a la roue qui tourne.
Je ne suis pas en confiance, t'as dit mon cher Richard.
Ouais.
Bravo,
tu
Richard.
Tu vas en subir les conséquences que tu mérites.
Tu es avec c'est Richard.
Je vais te punir.
Jérémy, bonsoir.
Jérémy.
Oui, bonsoir.
Salut Jérémy.
Salut Jérémy.
Jérémy, t'as choisi Louis.
T'as pas de bol.
Ouais, le meilleur.
Ah bon, ça va.
J'ai rien entendu. Qu'est-ce que t'as dit, Jérémy?
Le meilleur.
Merci Jérémy, je t'embrasse Jérémy. On va faire pour le mieux.
Entendu. Allez,
envoie le thème. Vous êtes entraîneur de foot, dirigeant dans des clubs amateurs, les gars.
C'est ça.
Celui qui gagne ce soir repartira avec un jeu de maillot short chaussettes. Donc,
Richard, si tu gagnes, c'est où on les envoyer les maillots, hein, à Jérémy. Hein. Vas-y.
Attention.
Alors,
messieurs, on va chercher ce soir des joueurs qui ont leur nom qui apparaît au palmarès du Ballon d'Or.
Ouais.
Encore?
Pourquoi encore?
Vas-y,
on
n'a
pas encore fait ça.
Ouais. Allez, on y va.
Attention. On parle après le coup de sifflet, bien sûr. J'ai gagné le Ballon d'Or en 1999.
Messi.
Je suis
Ronaldo.
Messi en 99. Je suis brésilien.
Ah non.
Ronaldo.
Rivaldo,
j'ai dit ouais.
Non, quoi?
Franck Leboeuf.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Rivaldo.
Rivaldo.
Eh ouais.
Rivaldo.
J'ai même échangé son maillot en quart de.
Il jouait à l'époque à Barcelone.
Et ben voilà. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose. L'embrouille était là. Il a vu le mec hier, le maillot, il avait échangé avec Rivaldo. Tu t'en es souvenu comme par hasard. Il y en a bien eu quelque chose,
tu as jamais senti.
2-0.
C'est bien parti. Allez, c'est parti.
J'ai gagné le Ballon d'Or en 1974.
Gattini. Bien joué, mon petit Jérémy.
C'est Richard.
Oui, 2-0. Bien joué, mon Richard.
2-0.
Bien joué.
74, année mémorable.
Ouais.
Faut le savoir. 2-0. Johan Cruyff en 74. Mmh. Attention, on continue, j'ai gagné le Ballon d'Or en 1982.
Platini.
Je suis italien. J'étais à l'époque
Rossi. Rossi.
C'est moi, Franck. Et je jouais alors Luis Figo.
4-0.
4-0.
Pour mais l'autre là, mais calme-toi là, Richard là. Je t'avertirai jusqu'à 20h30 ici.
4-0. Attention, j'ai gagné le Ballon d'Or en 1994.
Je jouais alors
94. Ronaldo et Messi, ils avaient 12 ans.
Non, mais le vrai Ronaldo.
Je jouais alors au Stoïkov.
J'ai dit, ça fait une heure que je le dis.
Luis l'avait dit.
Le mec, il veut pas que je le dise.
Luis l'avait dit, c'est vrai.
Stoïkov, j'ai dit, ça fait 5 points que je dis là.
Il a dit 4-1.
Calme-toi. Je gagne, je savais qu'il y avait dans le ce soir.
Risto Stoïkov.
Stoïkov, et là, il n'a pas pu passer à moi.
On l'a pas entendu.
J'ai gagné le Ballon d'Or en 1995.
Messi,
je suis un ancien joueur du Paris Saint-Germain. J'ai également joué au Brésil. C'est George Weah, oui.
Qu'est-ce que Raïl,
je sais pas pourquoi.
Alors, il y a
George Weah. 4-2, George Weah.
Tu commences à avoir peur, Richard. Accroche-toi bien là. C'est parti. Ça remonte là-haut dans mon esprit.
J'ai gagné le Ballon d'Or en 2003.
Thierry Henry.
Je suis un joueur tchèque.
J'ai joué,
c'est Franck qui était le plus rapide.
C'est complètement surexcité, je suis prêt à frapper, je lui balance le téléphone.
J'ai gagné le Ballon d'Or en 1958.
Raymond Coppa, Loïs.
Tu mets le carton jaune, il a dit au maire.
Pardon.
Tu dis merde, non. Tu le mets le carton, tu as un pot de plus pour moi.
5-3. J'ai gagné le Ballon d'Or 10 ans plus tard, en 1968. Je suis anglais. J'avais l'habitude de passer pas mal de temps dans les pubs.
George Best. Il a joué à l'Angleterre, il l'a pas trouvé lui. Moi j'ai trouvé.
Alors, on va retrouver un petit peu de calme.
Il n'y a pas de calme ici, c'est le grand chelem ce soir.
Je rappelle que si Luis gagne, il fait 2 semaines de victoire dans le
Tiki Talk. Tu montes sur la table, je fais ce que tu veux.
Foutez-lui du Prozac. Il y a 5-4 en faveur de Richard et Franck.
Il me met 5-2 sur 5-4. Le mec il est en train de chanter.
Attention. J'ai gagné le Ballon d'Or en 1998. Je suis cette année-là.
Zidane, c'est Luis.
Non.
Là, c'est interdit ce que je viens de voir.
Le grand slam va se jouer sur un point.
Lui, il est en train de me regarder à lui.
Point décisif pour finale décisive.
Ouais.
Attention.
T'as froid.
J'ai gagné le Ballon d'Or en 1963. Je suis gardien de but.
Nazaïev.
Non.
J'ai gagné le...
Yachine.
Bien joué, mon petit. Jérémy. Et c'est Jérémy.
Et donc Jérémy gagne un jeu de maillot grâce au Tiki Toi.
MyTeam-Foot.fr, le premier site d'équipement personnalisé dédié au club.
Non, j'ai rien, j'y fais. Il transpire et tout.
Au début de l'année, c'était calme, le Tiki Toi, mais là, c'est n'importe quoi. Jean-Louis Tourella, l'Arc et Foot, tout de suite.
Ça va aller, Louis, quand même, parce que là, t'es tout rouge, t'es en nage, là.
Quand je monte dans la voiture, je vais commencer à dormir.
Voilà, bah oui, t'as besoin de dormir, pas un Tiki Toi comme ça.
Non, mais je m'allonge tranquillement, je me mets sur le côté, bas côté.
Tout sur la Roumanie avec Durel Moldovan, qui est dans le staff de la Roumanie. C'est le premier adversaire des Bleus à l'Euro. On va savoir s'il faut se méfier ou non de la Roumanie.
Je te donne un jour.
Nouvel entraîneur d'Auxerre.
Stanciu,
bien sûr, Louis. On en parlera avec Viorel Moldovan. Gros plan également sur le Portugal ce soir, puisqu'il y a un joli Portugal-Angleterre. Et puis on parlera de Ben Arfa, de l'équipe de France, les infos compo et Antoine Griezmann. Ce sera l'objet du café crème de Captain Larquet. Restez avec nous, c'est parti pour l'Arquet Foot. Jérôme Roten, Captain Larquet jusqu'à 22h.